Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur à ce sixième rendez-vous à cette émission d'ésotérisme expérimental ici sur la radio du mieux-être. CJLV 1570 AM. La semaine dernière, on s'est quitté en écoutant une vibration tout à fait spéciale qu'on disait 440 Hz. 440 Hz, c'est un son sur lequel s'accordent tous les orchestres du monde pour ajuster la note « la ». Et le « la », dans la gamme en anglais, c'est le « a ». Et comme le « a », c'est la première lettre de l'alphabet, « a, b, c, d », les Anglais, ils parlent des notes avec « a, b, c, d », « a, b, c, d », alors que nous avons le « la ». Après, évidemment, « do, ré, mi, fa, sol, la ». 440 Hz. Qu'est-ce que c'est que 440 Hz? C'est le nombre de vibrations à la seconde, donc une vague qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, 440 fois en une seconde. Ça donne le « la ». Le « la » 440 qu'on entend présentement. Et vous vous souvenez, je vous disais que pour correspondre aux énergies de vie, on devrait descendre le « la » de 440 à 432. Qu'on entend maintenant. Bien, il faut d'abord se référer à la table d'émeraude. Pour les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme antique, ils savent que la table d'émeraude et presque les 10 commandements des ésotéristes. Et c'est à la fois très scientifique, comme nous le faisait remarquer notre ami Denis Harting la semaine dernière. Peut-être que ce qu'on croit être spirituel à une époque est tout à fait scientifique à une autre époque. Et d'ailleurs, la table d'émeraude. D'abord, il faut vous dire que la table, on l'appelle la table d'émeraude, parce que ces fameux 10 commandements de l'ésotérisme égyptien, donné par Thoth, le grand dieu Thoth, et qui a été repris par Hermès, trois fois sage, Trismégiste en Grèce, bien, ça débute par « tout est vibration ». Et cette table d'émeraude a été gravée dans une émeraude, oui, la fameuse pierre précieuse de l'émeraude, une émeraude un peu verte, là. Alors, le premier commandement, tout est vibration. Et quand on parle des hertz en musique, en parole, le son, la voix, c'est des vibrations. Ce sont des vibrations très précises qui font qu'on peut passer d'une note à une autre en changeant tout simplement la vibration. Mais vous savez que si la table d'émeraude, déjà à l'époque de l'Égypte ancienne, disait que tout est vibration, quand on dit tout, c'est tout. Même les couleurs, le spectre. Quand on parle des vibrations du rouge, quand on utilise le rayon laser rouge, puis maintenant on est avec le Blu-ray, un rayon laser bleu, on est passé des rayons de 700 nanomètres de longueur à 436 nanomètres, beaucoup moins long, beaucoup plus rapide pour le bleu. Et on aura peut-être des rayons laser un jour violets, indigo, pourquoi pas. Et puisque ça va plus vite passer du rouge vers le bleu qui est beaucoup plus rapide, on peut donc passer beaucoup plus d'informations rapidement. Et quand on disait tout, tout est vibration, notre pensée, notre tête qui émet des ondes de la pensée, les ondes cérébrales. Vous savez, les états de conscience qu'on donne des noms grecs, on commence à être habitué, hein? On tombe toujours à l'Antiquité, chez les Grecs ou chez les Latins. Mais là encore, là, on va parler des longueurs d'onde du cerveau, onde alpha, bêta. Si on descend plus bas, theta, delta. Alors on est dans des ondes inconscientes, puis tout d'un coup on arrive au conscient, puis au surconscient. La Terre elle-même a une vibration. Et là, il y a un événement majeur. On entend parler de la bascule des pôles qui pourrait arriver dans les prochaines années, l'arrêt des fameux courants dans l'océan Atlantique qui, s'il s'arrête, ça va modifier considérablement la météo de l'hémisphère nord de la planète, en tout cas l'Europe. Ils vont geler. Puis nous autres au Québec, ben ça ne changera pas grand-chose, mais aux États-Unis, on commence à se rendre compte qu'eux autres aussi, ils ont d'immenses tempêtes de neige. Et la Terre était, en 1960, à la vibration de 7,8 Hz. En 1960, 7,8. 1994, 8,6. Plus vite. En 2012, 13 Hz. Alors, on imagine que maintenant, on est déjà probablement rendu à 13,2 et en 2023, on calcule qu'on sera à 14,4 Hz. Vous allez me demander, ça sert à quoi de savoir ces choses-là, puis on ne les retiendra pas de toute façon. Bien, il faut comprendre que si la Terre qui nous porte, la mère Terre, la mater materia qui nous porte, elle est plus excitée que dans l'époque de l'Antiquité, ou même entre 1960 et maintenant, ça a été très rapide, l'accentuation, la rapidité de la Terre qui vibre de plus en plus rapidement. Elle est de plus en plus excitée, énervée. Elle nous rend excités, énervés, angoissés. Vous avez entendu parler des expériences, soi-disant scientifiques des Américains avec le projet HARP en Alaska, qui utilise des longueurs d'onde particulières qu'on appelle les ELF, Extreme Low Frequency, pour agir en se servant de l'ionosphère comme un miroir, et les ondes rebondissent et reviennent sur Terre, rebondissent, reviennent sur Terre. Ils peuvent provoquer, en jouant sur les différentes longueurs d'onde, des changements climatiques. Il n'y a pas seulement les chemtrails, il y a vraiment quelque chose dans le domaine des ondes. Et on nous dit même qu'à des endroits où ils peuvent faire de la focalisation, parce que les ondes, là, ça se propage un peu comme des vagues sur l'eau. Et un bel exemple pour avoir des vagues sur l'eau à part du vent, c'est de lancer une pierre dans l'eau. Et quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait un endroit où la pierre vient de tomber à l'eau, et ça fait des cercles concentriques à partir de l'endroit où la pierre est tombée, et là, la vague se répand, se répand, se répand. Et si vous lancez deux pierres, bien, vous aurez deux cercles qui vont finalement se rejoindre, qui vont faire ce qu'on appelle des interférences. Et au lieu des interférences, s'il y avait un petit bateau, un petit objet, vous verriez qu'il se déplacerait. Et de cette façon-là, avec HARP, la technologie inspirée de Nikola Tesla, hein, c'est pas n'importe qui, le fameux Nikola Tesla, qui a été pris très, très, très au sérieux en Russie tout de suite dans les années 30, 40. Il y a une université Tesla en Russie. Aux États-Unis, on l'a boudé. La raison fort simple, c'est que les inventions qu'il faisait permettaient, entre autres, de transmettre de l'électricité sans utiliser les fils, ni avoir besoin de barrages hydroélectriques ou d'éoliennes pour produire de l'électricité quand il y a un orage électrique, un orage avec les éclairs. Il y a suffisamment de watts, de pouvoir dans un éclair pour alimenter une ville pendant plus d'un an. Alors oui, il connaissait des choses. Peut-être que les Russes ont su comment les exploiter avant les Américains même. Alors, on réalise que tout est vibration, effectivement, que notre cerveau réagit à différentes longueurs d'onde, que la planète nous berce dans une mélodie qui change de rythme, de tempo. Hein? Alors, et de fréquence, qui va faire qu'à un moment donné, on va peut-être se retrouver à être tout le monde très angoissé, très nerveux, très énervé. On va avoir de la misère à gérer nos pensées. On va avoir des autistes qui vont apparaître de partout. Que les gens, à un certain âge, perdent le contrôle de leur contrôle mental, de leurs pensées, parce qu'il y aura beaucoup d'agressions qui viendront de l'extérieur et qui seront contre la nature profonde. Et de là, on disait, il serait important de revenir à 432 Hz, au moins pour le La, et évidemment accorder toutes les autres notes de la gamme en relation. Pourquoi le 432? Ah ben là, on rentre vraiment dans des notions ésotériques, et pour ça, j'ai fait appel à un de mes amis que vous avez déjà rencontré ici à l'émission, qui s'appelle Alain Niala, qu'on va retrouver après la pause. Et un peu plus tard dans l'émission, puisqu'on parle de longueur d'onde, de vibration, de son, de musique, de chant, on aura une grande chanteuse du Québec. Et on aura l'occasion de parler de notions vraiment ésotériques en rapport avec l'énergie de l'âme qui passe à travers le chant, qui passe à travers la personnification de quelqu'un qui était très, très connu, dont on va entendre beaucoup parler, surtout au mois de décembre 2015, puisque ce sera son 100e anniversaire de naissance. Tout un programme, encore une fois, aujourd'hui, à ésotérisme expérimental. Et tiens, j'ai l'idée de vous faire entendre déjà la voix de cet invité que nous retrouverons dans 15 minutes environ, après la prochaine période, avec Alain Niala. À tout de suite, écoutez bien. La reconnaissez-vous?
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré.
Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental. Pour ce deuxième bloc, j'ai un invité que vous allez sans doute reconnaître. Il se nomme Alain Niala, qui a participé à notre émission il y a 2 semaines environ. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Alors, c'était pour l'émission sur la métapsychologie
et le chamanisme.
Ah, ben oui. Alors là, si toi, tu es un spécialiste en ésotérisme, parler de chamanisme, on a parlé justement du tambour, puis des rituels, des chamans. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on est sur les vibrations. T'as entendu ça?
Absolument.
Et la grande question qu'on se pose, c'est que si on changeait de 440 à 432 le la dans un orchestre, est-ce que ça vient changer grand chose? Parce qu'on l'a entendu, il n'y a pas grande différence entre le la 440
ou 432. Presque un demi-ton quand même.
Oui.
Non, mais c'est pas le fait qu'on change une note qui est important là-dedans, c'est qu'on change une note de référence sur laquelle toutes les autres notes sont accordées. Donc, on se trouve à modifier toute la numérologie là, des chiffres. Quand on est au 440, par exemple, ben, le Do, il vibre à 261.63 Hertz.
261.63.
Okay. C'est comme un chiffre un peu complexe, alors qu'il tomberait à 256 à 432.
Précisément.
Oui. Donc, en fait, on retombe à des mathématiques simplifiées, épurées d'une certaine façon.
On avait dit la semaine dernière que le 432 correspond à un multiple du nombre d'or, parce qu'on parlait avec Noureddine et Yayabé, le physicien.
Donc, de nombre entier.
Un nombre d'or qui est un nombre qui représente la vie, le mouvement. Et les autres 440, ça remonte à 1938 où les orchestres du monde se sont entendus pour utiliser le 440. Parce qu'avant, il y en a qui utilisaient le 432, justement. On peut retrouver encore aujourd'hui des diapasons au 432.
Absolument. Le 432 était connu. Et il y avait aussi d'autres chiffres qui étaient utilisés. Il y avait des 415, il y avait d'autres fréquences qui pouvaient être utilisées. Ça a beaucoup varié à travers l'histoire. Mais il est intéressant, par exemple, de savoir que quand on va dans la pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh, le coffre qui est vide, là, mais qui...
La plus grande pyramide.
La plus grande pyramide d'Égypte.
Oui, oui, la table, on appelle ça la chambre du roi. Là.
Oui. Il y a là une grosse pierre là, qui est comme un sarcophage évidé. Il n'y a pas de sarcophage, en fait, dedans. Là, c'est nu.
Comme une boîte. Hein?
C'est même pas une boîte. C'est plutôt comme une mangeoire, à la limite. Ah, mais je veux dire, en termes de forme, là, c'est en pierre. Pour ceux qui ont de la mémoire, parce que là, il faut être un peu rétro, Paul Horn, dans la Grande Pyramide, accorde sa flûte au début du disque en frappant ce coffre-là. Il frappe la pierre et elle résonne au la 216. Donc, il s'accorde sur un la qui est un multiple du la 432. 2 fois 216, 432.
Ah, ouais.
Alors, les familiers de la numérologie vont être intéressés de savoir que 216, c'est le résultat de 6 multiplié par 6 multiplié par 6. Le fameux 666.
Mais oui, c'est ça.
Mais c'est la base à partir de laquelle les Sumériens comptaient, là, parce qu'eux autres comptaient sur une base à 60. Là.
Oui, sixième.
Oui, oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est leur 1111, ça. Bon, et kabbalistiquement, par exemple, la sphère solaire, Tiferet, la sphère 6, multiplié par le Aleph, qui est 111, ça donne 666. C'est une vibration solaire. Les Égyptiens étaient évidemment comme des adorateurs du soleil, disons, d'une certaine façon, qu'ils voyaient comme un principe, qu'ils voyaient comme le fils du cosmos. Hein? Si on, en anglais, le jeu de mots se comprend mieux. « For the sun is forever the sun », parce que le soleil est pour toujours le fils.
Ah, c'est bon.
L'étoile qui est, qui est le fils d'Isis. Hein?
Ouais.
L'étoile qui est comme l'espace infini avec, je veux dire, l'espace qui contient toutes les étoiles et l'un des étoiles qui est le fils, qui est le soleil. Donc, l'idée, ça sonne une cloche, si on veut.
Oui, ben oui.
Donc, c'est un élément important. Moi, j'aime ça, c'est les interruptions. Tu verras si ta coupe ou pas. Mais dans les faits, j'aime ça, les interruptions, parce que ça souligne l'importance de la chose.
Ah oui.
C'est qu'en s'enlignant sur une vibration comme ça, sur une vibration solaire, on s'enligne sur la lumière. Donc, les différents ordres du vivant vont s'ajuster, disons, vont être en harmonie. C'est plus une métaphore qu'une chose. Ça peut être fait autrement. Je ne veux pas dire que le 440 est une vibration de disharmonie en soi, mais elle est décalée, elle est plus mentale, elle est basée sur des mathématiques à base 9, et c'est une vibration plus rationnelle, disons. C'est pour ça qu'il y a eu consensus dessus, c'est que ça créait des équilibres d'accord très rationnel. Tandis que le 432, c'est des équilibres d'accord plus naturels, basés sur le nombre d'or, comme tu dis.
J'aime bien. Et l'harmonie, c'est quelque chose dans la nature qui engendre la vie, qui maintient la vie, alors que quand il y a une désharmonie, il y a quelque chose qui va se rompre, qui va en antagonisme briser et tout ça. Il faut savoir que Georges Lakowski, qui est un grand penseur, inventeur, et qui était en médecine, avait découvert entre 1920 et 1930, il avait mis ça au point, que les cellules vivantes ont chacune des fréquences particulières.
Chaque organisme vivant, chaque individu, mais aussi à plus petite échelle, chaque cellule, bien sûr.
Et on s'en est servi plus tard avec les travaux de Raymond Riff, lui, pour attaquer les cellules nocives, comme des cellules cancéreuses, ou comme même les virus qu'on fait éclater avec des vibrations. Moi, je sais que j'ai eu des pierres aux reins, j'ai été soigné d'urgence une nuit à l'hôpital Saint-Luc de Montréal. On m'a jamais ouvert le corps. On a envoyé une focalisation de vibrations, d'ultrasons, comme tu dis, les chiens sont sensibles à ça, nous autres moins, et ça faisait éclater la pierre au rein, c'est incroyable.
Hein? Non seulement c'est incroyable, mais c'est scientifiquement vérifié. L'idée, c'est de bien comprendre que toutes les vibrations s'étendent dans le cosmos. Alors, quand tu parles d'ultrasons, c'est des sons qui sont tellement aigus qu'ils sont plus audibles. Mais en fait, ce sont des fréquences plus aiguës que les notes les plus audibles qu'on puisse entendre. En fait, dans l'audible, là, on a environ 7 octaves. Disons là, qu'on peut entendre entre les fréquences les plus basses.
7 octaves, ça veut dire des notes de piano, là, de do, ré, mi, fa, sol,
la, si. Do, jusqu'à la répétition. L'octave, c'est le do suivant.
C'est ça.
Alors, les fréquences sont toujours au double. Hein? Quand on dit, par exemple, un la 432, la fréquence d'un octave en dessous, c'est le 216. Puis la fréquence du la au-dessus, ben c'est le multiple.
Ça serait 864.
C'est ça. Donc, c'est vraiment une idée de nombre de battements par seconde. Alors, dans les fréquences les plus basses, il y a très peu de battements par seconde. Je ne me souviens plus, mais je pense que c'est de l'ordre de 8. On voit quasiment une note de basse vibrer visuellement là, quand on la regarde.
Ben, quand si tu tombes dans les 8 vibrations, là, les 8 Hz, là, tu tombes dans les longueurs d'onde du cerveau θ,
oui,
qui correspondent à la phase de relaxation
profonde.
On pourrait aller encore plus bas, qu'on appelle le coma,
mm-hmm,
de 0,5 à 4 hertz. On est dans le coma.
On est dans les vibrations fondamentales.
C'est ça.
Qui sont inaudibles.
Au-dessus, l'état de veille en santé, c'est de 8 à 12 hertz. Mm. On appelle ça alpha. Bêta, c'est quand on est de 12 à 33 hertz. On est même un peu en alerte, là, excité. Mm. Mm. Puis on disait tantôt, à l'introduction que j'ai faite, que la Terre est en train de passer. On est depuis 2012 au-dessus de 13 hertz. Donc, on est au-dessus du 12 hertz.
Dans ce phénomène d'accélération.
Donc, d'énervement.
Oui, oui.
L'énervement
oui. Notre vibration cérébrale, disons, dans la mesure où elle est alignée là-dessus, serait surstimulée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est non plus. Là. Mais je veux dire qu'il y a tout ça à prendre en considération.
Alors, on est à la radio du mieux-être. Hein. On est bien placé pour parler de tout ça, pour se dire pourquoi on est moins bien, pourquoi on est mieux, pourquoi on pourrait être mieux.
Comment on pourrait être mieux?
C'est ça. Si les musiciens... Penses-tu que ce serait possible que si les musiciens, au lieu de continuer avec le 440 pour le la, puis comme tu nous avais bien expliqué, toutes les notes sont transférées aussi, là, ils changent toutes de vibrations, ils sont dans des vibrations harmoniques, toutes, est-ce que ça calmerait pas notre société, les gens, ça aiderait peut-être?
Ben, on peut pas l'affirmer complètement, parce que c'est sûr que le 440 est quand même maintenant bien établi. Donc, il s'agit de ramer. Mais il y a des musiciens qui le faisaient.
Je viens de m'acheter un clavier Casio.
Ah, on peut
il y a un
le
bouton
faire.
Pour le changer du 440 au 432. Et on me dit...
Jim Morrison le faisait, Jim Hendrix le faisait.
Comment tu veux dire qu'ils...
Ils s'accordaient eux-mêmes en 432 plutôt qu'en 440, parce que c'était plus facile pour leur voix.
Ah.
Parce que la voix, elle a ses timbres naturels. Chacun a, en fin de compte, une vibration
vocales.
Qui lui est propre.
Ouais.
Donc, pour qu'il puisse être dans ses gammes de façon harmonieuse, chaque note, en fait, est une couleur. Ça, c'est une affaire que je voulais introduire. C'est que si tu comptes, j'avais commencé à dire, si tu comptes les fréquences de bas au plus aigu, à un moment donné, tu les entends plus. Ça devient des ultrasons.
Ouais.
Bon, la 35e octave... Ça, on va l'apercevoir, nous, plus du tout comme un son. Ça n'existe pas comme un son, mais on peut compter le nombre de vibrations qu'il y a là.
Ben oui.
Ça correspond à ce qu'on perçoit comme la chaleur.
Ah, ben oui, l'infrarouge.
Oui. L'infrarouge, oui.
C'est de la chaleur.
C'est de la chaleur, oui, oui.
Les caméras qui filment dans l'infrarouge, ils filment la vibration de chaleur. Alors, c'est dans le lumineux, mais lumineux, chaleur.
Lui, le lumineux, lui, correspond à la 49e octave.
Oui.
Donc, à la 49e octave, on a une octave de couleurs. Donc, des
le
couleurs.
Spectre.
Le spectre des couleurs.
L'arc-en-ciel.
Du rouge
l'arc-en-ciel.
Jusqu'au violet. L'arc-en-ciel. Ça correspond aux sept notes. Ce sont les sept notes dans l'ordre des hautes fréquences lumineuses.
Eh oui.
Et après ça, on tombe dans l'ultraviolet. Donc, ça cesse d'être visible. Donc, assez curieusement, l'œil perçoit une octave de lumière. Seulement... 7 tons.
Ah, ben oui.
Oui, oui, oui.
Ben oui, c'est vrai.
On ne voit pas les octaves plus hautes, là.
Ouais.
On voit des harmoniques, on voit des...
On entend plus qu'on voit, autrement dit.
Le son plus large,
plus large.
Que
ça.
Qu'on perçoit avec l'œil.
La semaine prochaine, j'ai un spécialiste en électronique puis tout ça, qui va nous expliquer justement le radar, comment ça fonctionne. Il a connu, lui, l'inventeur du radar. Et puis, ce monsieur est québécois qui a travaillé avec Arthur Matthews, qui était, on pourrait dire, le fils spirituel de Nikola Tesla à Québec. Et Hervé Lapointe, notre invité de la semaine prochaine, qui est toujours vivant, et on va en profiter pendant qu'il commence à être un peu âgé, mais nous rappeler des souvenirs de l'évolution de toutes ces sciences-là. Lui a connu ça, lui, des débuts. Il me disait même qu'il y a des postes de télévision qui se vendaient sans haut-parleur. Parce que ça augmentait le prix de la télévision dans le temps des débuts.
Mmh.
Et que les gens avaient un bouton en arrière, un fil qu'ils pouvaient brancher dans leur télévision pour que le son soit entendu dans des postes de radio.
Mmh.
Parce que tout le monde avait la radio.
Ben oui.
J'avais jamais entendu parler de ça.
Je le fais chez moi.
Alors, il va nous expliquer que, comme tu nous dis, on part d'un spectre des rayons cosmiques gamma, rayons X, ultraviolet, on tombe dans le spectre lumineux de l'œil, pour aller vers l'infrarouge, les micro-ondes, la télévision, la radio.
Oui, c'est ça, il y a un certain nombre d'autres fréquences.
C'est ça. Toujours, on parle toujours de fréquences. Tout est vibration, c'est ça. Là.
Tout est vibration, des plus basses jusqu'aux plus hautes. Et il y en a même qui sont beaucoup, beaucoup plus lentes, mais qu'on devrait pouvoir prendre en considération, comme les vibrations que je qualifierais d'astrologiques. Comme par exemple, une rotation de la Lune autour de la Terre, c'est une vibration par 28 jours. C'est lent à notre échelle, mais à l'échelle du cosmos, c'est très rapide. Et on a d'autres pulsations du même genre, comme Jupiter, c'est une vibration aux 12 ans, Saturne, c'est une vibration aux 28 ans. Alors, on peut voir qu'il y a des taux vibratoires qui sont extrêmement lents à notre échelle, mais qui nous affectent, des vibrations qui sont technoniques, là, qui viennent de la Terre, des vibrations qui sont de l'ordre des vibrations qui nous animent, comme notre propre encéphalogramme, là, les vibrations qu'il y a dans notre cerveau, puis des vibrations sonores qui sont à des fréquences un peu plus élevées, mais qui sont intriquées, je veux dire, qui sont des harmoniques de ces vibrations plus lentes. Donc, on peut représenter dans la musique les harmonies des sphères entre les planètes ou les harmonies de couleurs.
Génial.
Et donc, chaque note est comme une couleur, puis les accords de son sont aussi des accords de couleurs, comme des couleurs qui se fusionnent, là, comme des couleurs secondaires, des couleurs tertiaires, des nuances qu'on donne à l'émotion qu'on veut faire passer.
As-tu remarqué que les couleurs de base, les trois couleurs primaires, c'est le rouge, le jaune et le bleu.
Bien sûr.
Le jaune avec le bleu, ça fait le vert.
Bien sûr, c'est ça.
Et ça, c'est pour des couleurs de pigments matériels. Quand on prend de la peinture, c'est les trois couleurs primaires, c'est rouge, bleu, jaune. Mm-hmm. Mais quand on prend des rayons de lumière, on prend le rouge, bleu, vert. Mm-hmm. Red, green, blue, le RGB de la télévision couleur, qui, eux, n'utilisent pas de la pigmentation matérielle, mais du rayonnement. Et on s'aperçoit que c'est curieux parce que, dans un cas, si tu mélanges toutes les couleurs ensemble, dans la pigmentation, tu obtiens quoi?
Du noir.
Du noir. Mm. Et quand tu fais tourner un spectre de couleurs par le reflet de la lumière de différentes couleurs, tu obtiens?
Du blanc.
Exactement l'inverse. Le fameux yin-yang, le pakua oriental avec les deux vagues, une noire, une blanche, avec un point noir dans la blanche puis un point blanc dans la noire. Hein, on comprend que c'est une façon d'expliquer la vibration encore.
Il faut se rappeler que le ciel noir là, qu'on regarde, là, il est saturé de lumière.
Ben oui, il y a des étoiles partout.
C'est ça. Il n'y a juste pas de résistance d'atmosphère pour la révéler, cette lumière-là. Donc, dans le vide, la lumière est noire. Mais c'est un paradoxe. Elle voyage quand même, là.
Ben oui.
Elle est lumineuse. Donc, la vraie couleur de la lumière, c'est le noir. La lumière est noire. Elle devient blanche quand elle rentre en friction avec une atmosphère. Oh. Comme disait Gurdjieff, c'est pas le soleil qui éclaire la Terre, c'est l'atmosphère de la Terre. C'est l'atmosphère de la Terre qui reçoit la lumière du soleil et qui la transforme. Il y a comme une espèce de résistance calorique. Et elle la transforme en lumière qu'on voit, qui se réfléchit sur tous les objets, etc. C'est l'effet de réflexion aussi qui nous renvoie des couleurs. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas toute la lumière, mais celle qui nous réfléchit les objets.
On pourrait donc dire que quelqu'un qui est habillé en blanc, qui nous paraît très lumineux, très brillant...
Il réfléchit toute la lumière.
Oui. Il n'est pas lumière du tout lui-même.
Non, il réfléchit toute la
Alors
lumière.
Alors que celui qui est en noir, celui
il absorbe
qui aime,
la lumière.
Il absorbe la lumière.
Le corbeau, l'oiseau de lumière.
C'est ça, oui.
Selon les
ça.
Chamans.
C'est très intéressant. C'est amusant tout ça, Alain. Je suis content parce que ton approche est plus ésotérique, si on veut, mais on voit que l'ésotérisme, c'est scientifique.
Scientifique, c'est-à-dire que moi, j'affectionne l'idée que c'est une connaissance. Parce que la science, c'est un des mythes qui servent à expliquer le réel. Il y a la pensée mythologique primitive de laquelle on s'est sorti, un peu comme si on s'était sorti d'une noirceur pour aller vers la lumière, mais selon la métaphore que je viens juste de développer. Là, qui, et on arrive à la connaissance qui est une autre forme d'expérimentation du réel.
Bon, on doit se quitter pour la pause du Absolument. Milieu de l'émission, l'identification de la station, et on reviendra avec notre autre invité qui nous écoute très attentivement, qui s'appelle Claire Garand. Mais vous allez l'entendre juste en allant à la pause.
Qu'il était beau, le piano, beau piano, vieux piano, des copains, à l'époque des copains, chez Bianco l'Argentin, vers 3h du matin, quand elle buvait son demi-double lit. quand elle était jeune et que venait se saouler le dedans de pathétique en se frottant au piano nostalgique.
Nous sommes de retour à l'émission Ésotérisme expérimental. Et ces applaudissements étaient envers une artiste. Un tour de chant assez spécial dont on va parler un peu plus tard. Mais d'abord, je vous la présente, Claire Garand. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Enfin, une femme à l'émission. Vous êtes la première.
Mais oui, mais j'ai une voix toute basse, presque une voix d'homme, parce que je suis un peu éraillée aujourd'hui.
Ouais, la journée
mais
est avancée.
La journée est avancée, on a chanté toute la journée, mais enfin, bref.
Et on arrive à l'hiver.
Je suis quand même une femme.
Elle joue comme la cigale, on disait. Hein? Elle a chanté tout l'été, la bise
venue.
Qui arrive.
Elle chantait encore.
Elle chante encore. Oui, c'est ça. Mais c'est tout un monde que le monde du chant, parce qu'aujourd'hui, on parle des vibrations avec Alain Niala, qu'on va retrouver après la prochaine pause.
Oui, oui.
Mais est-ce que finalement, c'est pas un grand risque de faire carrière dans le chant, à moins d'être Céline Dion ou, je sais pas, moi, Ginette Renault au Québec, là, il n'y a pas beaucoup de grandes chanteuses qui ont fait une carrière, j'allais dire, rentable.
Oui. Ben, la mienne m'a permis de vivre depuis 25 ans, plus de 25 ans, bien que je ne sois pas vraiment connue. T'sais, je ne suis pas un grand nom connu parce que j'ai fait un peu une carrière parallèle. Je n'étais pas toujours sur le devant de la scène. J'ai été beaucoup à travailler en musicothérapie, mais je chantais toujours quand même. J'étais en musicothérapie dans les hôpitaux et puis j'avais consacré ma vie à ça.
Donc, vous êtes d'accord avec l'idée que tout est vibration et que la vibration, le son, peut soigner.
Oui.
Et comme peut rendre malade aussi, évidemment.
Oui, oui, je crois. Oui, parce qu'on voit à quel point... C'est facile de voir à quel point une musique, si tu choisis une musique apaisante, la personne va être apaisée. Ouais. Si tu choisis une musique trépidante, on va trépider. Tu pars de... Pour une chanteuse, là, quand tu décides d'animer, par exemple, une soirée, puis... Tu peux mener les gens à la baguette, si on peut dire, comme un chef d'orchestre, pas plus que comme une férule,
là, oh, oui, oui.
À la baguette, dans le sens que tu peux vraiment, vraiment, tu décides, tu commences une musique avec un rythme dansant, puis là, tout le monde, pouf, tout le monde part comme avec ce... Bon,
il y a un entraînement qui se fait.
Après ça, tu commences une chanson triste, tout le monde, puis là, ça pleure. Alors, ça... Tu peux passer d'une émotion à l'autre avec la musique, et donc avec les vibrations transportées par la musique et l'émotion transportée par la musique. Donc, ça a vraiment un impact sérieux, sérieux et réel, réel. Sérieux dans le sens de réel sur les gens.
La semaine dernière, on parlait de Star Wars, la guerre des étoiles.
Oui.
Et on a eu quelqu'un qui nous a spécifié que lors du tournage du film... Les premières projections qui ont été faites à un public pour voir comment ils réagiraient, il n'y avait pas de musique de John Williams. C'était plate. Les gens disaient, ça va être un navet. Quand ils ont entendu la musique qui accompagnait la série La Guerre des Étoiles...
C'est ça qui fait
étoiles,
tout le film.
C'est ça.
Alors, regarde un film sans la musique, c'est rien.
C'est ça. Hein?
Souvent, pas grand-chose. Ouais. Ben, c'est tout le film, évidemment.
Ben, remarque, on dit dans les textes ésotériques, les textes sacrés, Dieu dit... que cela était bon. Dieu dit, Dieu parle, hein? Il fait des choses, mais le Verbe, puis on a même rajouté que le Christ Jésus, c'était « et verbum caro factum est ».
Oui, oui. Et le Verbe s'est fait chair.
Eh bien voilà, mais il y a des fois que le Verbe, il coûte cher.
Oh, oui.
Ça, c'est autre chose. Mais là, on voulait dire « il s'est fait chair », on voulait dire la chair humaine.
Mais oui.
On voulait pas dire la chair qui monte en chair, le curé, parce que le Verbe qui monte en chair, c'est pas encore la même expression. Et justement, toi qui s'adresses à un public d'un certain âge en général, hein, c'est des gens que vous rencontrez
en général.
Et ça leur fait du bien. Hein.
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je le vois tous les jours, tous les jours. Puis ça fait du bien aux autres aussi, aux plus jeunes. Quand je fais des spectacles, les hommages, comme je peux en faire aussi dans les restaurants ou les petites salles à Montréal, je fais des hommages, un hommage à Piaf, celui que tu as vu. Oui. Et bon, j'ai des hommages que je fais comme ça, mais il y a des gens de tout âge et ça me surprend. Et les jeunes aussi viennent me dire à quel point ils ont aimé. Donc, eux aussi sont... mais en général, c'est certain qu'un hommage à Piaf va attirer des gens un petit peu plus vieux et des jeunes qui sont curieux. On a entendu parler d'elle, ouais. On voulait savoir qui c'était et ils la voient pour la première fois.
C'est, bon. Elvis Presley pour les Américains.
C'est ça.
Et Edith Piaf pour les Français.
Presque, je dirais que oui.
Oui. Moi, c'est ça, j'ai assisté à...
Si on parle de monstres sacrés, oui.
Ouais, oui, puis en assistant à ton spectacle avec Geneviève, on a été troublés. Et on a vu des gens pleurer.
Oui.
Et tu m'as permis de filmer.
Oui.
Et on enverra des scènes un petit peu à le vidéo rendu qu'on fait les samedis soirs entre 8h et 9h30.
Oui.
Pour les gens qui nous suivent, là, ici à la radio, ils savent qu'il y a un complément à l'émission qui est sur le câble qui s'appelle Ésotérisme, trait d'union, exp.com. Et tous les samedis soirs, c'est au canal Orandia TV sur YouTube. O-R-A-N-D-I-A TV. Et là, vous allez voir Claire Garand. Et vous allez voir sa personnification d'Edith Piaf, c'est hallucinant, hein, je veux dire. Il y a des gens à qui j'ai fait entendre encore aujourd'hui là, des passages, puis ils étaient sûrs que c'était Edith Piaf.
Ah oui.
Ah oui. Alors, est-ce que, si on va dans cette direction-là, parce que je pense que c'est un point majeur de ta carrière.
Oui.
Il n'y a pas que Edith Piaf, hein, tu personnifies
non,
d'autres.
Non, je personnifie d'autres, et j'ai aussi un volet auteur-compositeur que j'ai mis un petit peu de côté, malheureusement, mais
donc,
qui reviendra bientôt.
Composition, oui, interprétation,
oui.
Et tout.
Oui. Il y a un volet aussi, beaucoup plus juste la voix, donc des expériences, je dirais, des expériences vocales que je fais avec des musiciens. Ensemble, et puis est-ce que je les nomme?
Ah bon, oui.
Il y avait Alain Niala qui était ici présent,
ouais,
qui
est quelqu'un invité,
oui, mais qui fait la musique depuis des années avec un de ses grands amis qui s'appelle Michel Arcan, et qui, puis là, ils m'ont invité à aller avec eux pour cette soirée-là. Puis moi, j'aime ça, moi.
Un vocaliste.
Oui, j'aime ça parce que là, on baigne dans une musique atmosphérique, et là, c'est la voix qui part et qui s'exprime. Et on arrive toujours à un moment où là, il y a une fusion totale.
Une communion.
Une communion.
Ouais.
Et moi, c'est ça que je recherche dans la musique, c'est la communion. Et ça arrive, tous les musiciens connaissent ce moment où tout à coup, on communie. Et tout le monde est d'accord pour dire à quel point c'est magique, c'est merveilleux. Et par la voix aussi, on peut communier avec, mettons qu'on est seul. Mettons qu'on est seul avec soi-même et qu'on fait juste des vocales, qu'on vocalise. Il y a aussi, il peut se passer quelque chose de très intérieur, à l'intérieur de nous, qui fait qu'on communique aussi avec autre chose. Peut-être avec le verbe en nous, je ne sais pas si c'est ça.
Chanter, mais, c'est pour être enchanté aussi.
Oui, et puis je dirais que chanter, c'est comme prier, on le disait
ah oui,
aussi.
On disait ça.
Et je peux vous l'affirmer, c'est vraiment souvent, c'est ça. D'autres fois, c'est être un spectacle, d'autres fois, c'est chanter peut être beaucoup de choses, bien qu'on fasse toujours l'acte de chanter, puis que ça te demande toujours un don, une générosité, une ouverture. On est complètement ouvert quand on chante. Hein?
J'allais te demander, est-ce qu'il n'y a pas l'expression presque comme un orgasme? En groupe, dans un jam, à un moment donné, on atteint un extase.
En groupe, oui.
Oui,
je
ça.
Dirais qu'en groupe, quand on atteint le moment fusionnel, on pourrait... Ça peut se comparer, bien que ce soit très différent.
C'est
un orgasme,
génital,
c'est
là,
pas
c'est
génital
ça,
du tout, du tout. C'est, j'appellerais ça un orgasme peut-être émotif ou spirituel. L'émotif proche du spirituel, je dirais.
Le grand Rudolf Steiner disait qu'au 21e siècle, on découvrira que l'organe de sexualité, mais il faut bien comprendre l'origine du mot « sexe » qui veut bien dire « cis », comme un sexagénaire, c'est pas un gars qui est dans le sexe, là, ou une femme dans le sexe, ça veut dire 60 ans, une
oui.
année bisextile,
oui.
ça veut dire 2-6, 366
oui.
jours,
oui.
2-6, bisextile. Alors, il dit, l'organe sexuel du 21e siècle sera la voix. Le larynx.
Le larynx, ouais. Oui.
Et c'est très curieux, mais là, on commence à comprendre que si nous, on monte nos vibrations, puis on parle de vibrations depuis le début de l'émission, ben on part du génital, on monte au niveau du cœur.
Oui.
Puis quand on parle d'un cœur de chant, on parle du cœur.
Oui, oui, absolument, c'est vrai, avec un H, mais quand même, c'est ça aussi.
Tout est là, oui, dans le sens de la langue des oiseaux,
le son. Coryphée, ou c'est peut-être ça qu'on vient de ça aussi, peut-être. Mais oui, moi je dirais aussi qu'effectivement, le chant,
alors
le
là,
côté spirituel.
Claire, je te pose la question qui tue.
Bon, allez, OK.
Quand tu incorpores, ou tu personnifies plutôt, Édith Piaf, c'est encore comme une communion. Mais pas un jam avec du monde, c'est un jam avec elle, si on veut. C'est elle qui vibre à sa vibration.
Bien sûr, parce que chacune de ses chansons, des chansons que je fais, est totalement associée à elle.
Ah, total.
Totalement associée, on connaît très bien son répertoire. Alors, c'est certain que si je commence à chanter les chansons de Piaf, et qu'en plus je me costume, puis je me déguise, puis que je roule mes airs, que je grasseille un peu comme elle, et que sans vouloir vraiment limiter, je ne veux pas vraiment limiter, puis j'ai pas pris des heures à regarder comment elle faisait les choses, vraiment pas tant que ça. Mais elle fait partie de notre vie, hein, Édith Piaf, on la connaît depuis toujours, ben nous, ma génération des années 50. Et donc c'est certain que aussitôt qu'on approche ses chansons, on est avec elle, on est dans son aura, si on veut dire. Mm-hmm. Moi, j'ai pas l'impression que je suis habitée totalement par elle, mais ses chansons, c'est elle. Alors, bien sûr qu'on la touche, qu'on touche à l'égrégore Édith Piaf, si on peut appeler ça comme ça, parce que...
Exactement, elle, c'est la place ici en ésotérisme.
Elle fait toujours partie de notre égrégore de la Terre, parce que c'est une artiste mondialement connue, ou peut-être pas au Japon, je le sais pas, là, mais quand même.
Tu sais, le drame qui est arrivé à Marion Cotillard, qui a incorporé ou qui a personnifié Édith Piaf dans le film sur la biographie d'Édith Piaf, elle a même gagné un Oscar avec ça.
Elle a gagné un Oscar.
Oui, mais Marion a été obligée d'être exorcisée parce qu'après, elle était complètement puelle.
Oui, oui.
Elle avait les gestes, elle avait les pensées, les réflexions, les attitudes d'Édith Piaf continuellement.
Oui.
Et les amis disaient, écoute, on ne te reconnaît plus.
C'est parce qu'elle a été baignée dans ce personnage d'une façon tellement intensive pendant des mois et des mois. Et c'est long de tourner un film. Hein. Donc, c'était tous les jours pendant plusieurs mois. Elle était déguisée, elle était habillée. Il a fallu qu'elle la regarde beaucoup, beaucoup, elle, pour aller faire un
film,
là, qu'elle est...
Bon. Elle s'est perdue
donc,
dans le personnage.
Elle a été vraiment... Ça a été un bain très intense. Peut-être qu'elle n'avait pas prévu à quel point ça serait aussi fort. Parce que si la vie de Piaf, elle est forte, c'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose à laquelle tout le monde peut s'identifier. Une pauvre enfant de la rue, une pauvre petite enfant, hein? Qui monte et qui tout à coup arrive au sommet de la gloire.
La môme qui
aime qui ne vit que par l'amour et la chanson et qui vit des amours. Enfin, bref, donc elle est entrée dans ce personnage et je comprends très bien qu'elle ait pu être habitée à ce point-là. Oui.
On sait que 2015, c'est un anniversaire pour Édith Piaf très important. Hein?
Oui. Oui, parce qu'elle est née en 1915. Donc, 2015, ça va faire 100 ans qu'elle est née. Alors, c'est certain qu'on va certainement réentendre parler d'elle, tout comme on a entendu parler de Félix Leclerc cet été, qui était né en 14. Hein? Alors, on a souligné l'événement. Alors, pour Édith Piaf, c'est certain qu'on va beaucoup souligner l'événement aussi, on va se rappeler d'elle.
Et on retrouvera probablement Claire Garin.
Ah, c'est certain que moi...
À des endroits où les gens vont te retrouver en disant « Ah, mais hey, vous avez... t'as un site Internet? »
Oui, j'ai un site Internet, mais le prochain spectacle de Piaf, je le fais pendant le Montréal en lumière qui va avoir lieu au mois de février. Montréal en lumière, c'est beau, hein, la lumière.
Oui.
Et je le fais au balcon, le cabaret Le Balcon, dans le Vieux-Montréal. Ça va être le 25 février.
Et en allant sur ton site, comment c'est les lettres d'appel du site, c'est quoi?
C'est Claire Garin.
C'est
Claire Garin avec un D à la fin. Je dis toujours, je ne suis pas garantie, moi, c'est un D. Hein?
Ouais,
ClaireGarin.fr pour français, .mu pour musique.
Oh, Alors, Claire Garand, il n'y a pas de point, il n'y a pas de trait d'union, c'est
non,
tout d'un
clairegarand.fr.mu. Puis là, vous allez avoir des vidéos, de connecter à certaines vidéos, certaines choses que je fais. Ouais. Vous allez voir les spectacles que je fais aussi.
C'est sûr que de vous regarder sur YouTube ou sur des vidéos, c'est jamais comme en personne. Moi, avec, on est allé assister, puis on a été vraiment troublés. Et pour tout le monde, je pense que la chanson fétiche d'Édith Piaf, c'est...
Ben, La vie en rose, je crois que c'est très populaire. Et l'hymne à l'amour, c'est une très grande... Oui.
Parce que l'hymne à l'amour, vous m'avez précisé, d'ailleurs, vous le dites dans votre tour de chant, vous racontez la vie de Piaf comme si vous étiez
comme
Piaf
c'était...
en train...
Oui, je suis là, je suis dans la rue, puis je parle aux gens, puis là, je suis dans, vraiment, j'essaie.
Avec des confidences
et tout. Oui, je fais des confidences.
Alors, l'hymne à l'amour, on l'écoute maintenant.
Ah,
mesdames,
oui.
Messieurs, je vous préviens, c'est Claire Garand qui chante.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier.
Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental avec Alain Niala et Claire Garand qui joue un curieux d'instrument, n'est-ce pas?
Shruti box. Une boîte à musique, c'est comme un genre d'harmonium ou d'accordéon qui produit seulement un seul drone, un seul son.
Ça vient de quel
comme
pays?
Comme un home, c'est indien, évidemment.
Ah, des Indes?
Mais on retrouve ça dans différentes contrées.
Est-ce que ça veut dire quelque chose? Shruti?
Shruti, la racine, veut dire révélation. Donc,
Ah-ha.
C'est un genre de boîte de Pandore en même temps.
Ah, excellent! Alors, Claire?
Oui, je vais le...
Tu as rapporté ça d'un voyage en Inde?
Oui. Oui, c'est ça.
Ça ressemble un peu à de la cornemuse, hein? Il y a un son permanent.
Un, c'est un son, de, comment est-ce qu'on appelle ça, le son de base?
Oui,
c'est ça. Et c'est vraiment utilisé beaucoup, beaucoup en Inde, quand on apprend le chant dévotionnel. Tu sais, ils ont de très, très belles mélopées en Inde. Et ça, ça aide beaucoup à la méditation par le chant. Donc, on fait des chants dévotionnels avec ça, et puis, donc, il y a des paroles, il peut y avoir des paroles là-dessus.
Mais toujours sur la même note.
C'est toujours sur la même note, mais on a quand même quelques choix d'accords, peut-être 3 accords par boîte. Il y a un petit, on ouvre, et puis on peut placer des roulettes.
Ah bon?
Et puis là, on fait un accord différent.
OK.
Hein? Alors là, j'étais dans un certain accord, et puis on peut faire des chants, beaucoup, beaucoup de chants dévotionnels uniquement avec ça. D'autres chanteurs, d'aucuns vont remplacer par le tamboura, par exemple.
Ah,
c'est
oui.
l'instrument à 4 cordes.
Lui aussi, il joue tout le temps.
Il joue toujours le même accord, mais pour soutenir un chanteur ou un instrumentiste, un soliste, pour pouvoir lui permettre de faire toutes ses
Ravi Shankar, c'est ça qu'il
jouait? Il y avait toujours
un sitar.
Sitar, lui, il fait les notes, mais il y avait toujours un tamboura en arrière. Pour pouvoir faire le fond.
OK. Tous les deux, là, vous avez l'air de bien connaître ça. Êtes-vous allé en Inde?
Bien, ça on dirait, hein? Oui.
Alors, quelle était l'idée d'aller en Inde?
Et j'étais allée vraiment dans un but spirituel. Ce qui m'attirait là-bas, c'était Auroville, donc tout le message de la mère et de Sri Aurobindo. J'étais très, très attirée par ça. C'était en 1978, et puis après ça, en 1983, je suis allée deux fois. La deuxième fois, je suis restée un an. Et puis, quand je suis allée là-bas, à Auroville, il y avait toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Puis je me demandais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, hein? Comme, est-ce que je vais faire ceci, faire cela? Et quand je suis partie, j'étais dans le costume de théâtre, ici à Montréal. Et puis là-bas, tout à coup, il y avait beaucoup de possibilités à Rouville parce qu'il y avait des communautés. Il y en a qui faisaient la ferme, l'autre, c'était... Hein? Et tout existe, m'attirait.
Et ça existe toujours.
Ça existe toujours, toujours. Oui. Et tout m'attirait. Je voulais... Je savais plus ce que je voulais. Mm-hmm. Mais c'est pas moi qui ai choisi, finalement. Je crois que j'ai été choisie par la musique parce qu'un jour, je demandais vraiment... Qui que ce soit, à Dieu, je veux trouver ce que je veux faire.
Là-bas, puis, c'est Brahma.
Tout à coup, Brahma, mais tu sais, on est très proche de la spiritualité là-bas. Là. En Inde, on est très, très proche de l'âme. Partout, il y a des temples, partout, on est appelé. Puis, comme c'est une autre religion, on dirait qu'on n'est pas... c'est attirant, quoi. Puis, tout peut nous amener facilement à être plus dévots, dévotionnels. Ben,
l'âme,
dévot,
musique, comme dans l'âme, magie, l'âme musique.
Mais un jour, j'entends une voix s'élever dans le ciel, parce que je ne voyais pas la personne, j'étais très loin dans un espace très aéré, puis là, j'entends une voix s'élever dans le ciel, je la voyais presque monter. Je ne la voyais pas, évidemment, mais je la sentais monter dans le ciel, et c'est là que j'ai eu ma révélation. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, chanter. Je veux chanter. Et là, ça a été le début des cours de chant hindoustani que j'ai pris avec un maître, un professeur de chant à Pondichéry. J'y allais une fois par semaine, puis on avait le petit instrument comme ça, où j'avais un tamboura pour m'accompagner. Ça a été comme ça que j'ai commencé le chant. Et ça a duré un an, et puis quand je suis revenue au Québec, c'était le chant. J'ai commencé par écrire des chansons, faire mes propres chansons. Après, ça s'est rendu maintenant où on a dit qu'on était avec des hommages à Piaf, toutes sortes de chansons. Alors, je chante sans arrêt, quoi.
C'est devenu
ta voix.
Je chante
tous les jours. C'est devenu vraiment ma voix. Je chante tous les jours pour des gens depuis au moins 30 ans.
Et toi, Alain? En Inde, est-ce que tu as été approché par la musique? Est-ce que tu as eu des effets initiatiques ou révélateurs, comme on disait tantôt, hein?
Pas directement par la musique, même s'il y a des expériences musicales extraordinaires qu'on peut avoir là, parce qu'il y a des musiciens extraordinaires comme des artistes extraordinaires. Mais effectivement, c'est une terre qui est comme porteuse de spiritualité. Pas tellement parce qu'elle serait plus spirituelle uniquement elle, là. Je veux dire, on trouve des endroits spirituels un peu partout dans le monde. Mais entre autres, parce que comme c'est une culture différente, il y a comme une façon dont naturellement ça déplace le point d'assemblage. On a déjà parlé de ça.
Oui, c'est ça.
C'est qu'on sort de notre conditionnement.
Alors, l'impression que la musique orientale et la musique occidentale sont presque incompatibles. Un joue sur la pentatonique, l'autre...
Métaphoriquement, on pourrait dire, mais c'est pas exact, mais juste pour dire les choses très simplement, que la musique occidentale est sur les notes blanches du piano, puis la musique orientale est sur les notes noires.
Oui, mais comme on sait qu'on va sur les noires...
C'est pas exact,
on
va sur les deux, mais je veux dire que la façon dont on s'est construit...
C'est ça.
Nous, on a un système à 7 notes ou 12, puis l'oriental, c'est surtout pentatonique ou 5.
Les 5 notes noires,
mais,
c'est ça.
Puis l'autre opposition, c'est que la musique occidentale est plus... orchestrale est plus basée sur les harmoniques, tandis que la musique orientale est plus basée sur la mélodie. Elle est beaucoup plus ondulante. C'est pour ça qu'on va souvent avoir rien qu'une note de base. Et là, on a un solo. Tu parlais de Ravi Shankar. Mais il va aller en solo. Il va moduler beaucoup sur une seule note, au fond. On va dire que c'est une raga en telle note. Et là, elle est sur un certain mode. Et toutes les improvisations sont mélodiques sur une base qui est en fait tout le temps la même. Tandis que dans la musique occidentale, il y a beaucoup plus les harmoniques ou les dissonances qui sont travaillées. C'est une musique plus orchestrale. C'est pas une vraie division, mais c'est sûr que tout ce qui a rapport avec l'Orient et l'Occident est un peu comme cerveau droit, cerveau gauche.
Ouais.
C'est un peu comme si, en allant en Orient, on se déconditionne du cerveau rationnel et là, on rentre dans une terre qui est beaucoup plus... vibrante, qui est beaucoup plus organique. Tout le contact aussi avec les gens, c'est quand même... En Inde, il y a quand même 1,3 milliard de personnes. Je veux dire, on rencontre du monde.
Si on parle de surpopulation...
C'est comme une vague de monde.
Mais est-ce que le fait que les musiques sont basées sur des harmoniques, sur des notes différentes, est-ce que leur spiritualité est différente aussi? Nous, on va dans des temples qu'on abandonne de plus en plus, les églises. Les rituels religieux, bon, maintenant on passe à autre chose, mais là-bas, ils sont encore fervents. Hein?
Oui, c'est sûr que ce qui est très différent, c'est quand tu rentres dans un temple au Mexique, par exemple, c'est des ruines. Mais quand tu rentres dans un temple en Inde, il y a des rituels dedans, là. Je veux dire, c'est encore actif, c'est évidemment. Il y a une population active qui est encore très spirituelle. Mais c'est pas là-dessus que la différence est la plus grande. C'est vraiment la différence culturelle, la différence de pensée. C'est que c'est pas le même type de religion. C'est une religion beaucoup plus...
Ici, c'est des religions du livre, surtout, hein, des révélations du livre, le Coran, la Torah, la Bible.
C'est ça.
Et là-bas, ce n'est pas des textes qu'on lit à la lettre.
Ils ont des textes très élaborés, mais ce qui est différent, c'est que c'est une relation beaucoup plus expérientielle au rituel, puis à la spiritualité. Ils ont le yoga, entre autres, évidemment.
Ben oui,
c'est donc, ça. C'est une démarche de spiritualité par l'introversion. En fin de compte, c'est comme passer d'une société très extravertie à une civilisation beaucoup plus introvertie. Donc, il y a une complémentarité, entre autres, dans ce sens-là.
À vous écouter, avez-vous la nostalgie de votre voyage en Inde?
Oui, c'est sûr. Mais en même temps, une des expériences les plus fortes que j'ai eues en Inde, c'est d'entendre le minuit chrétien en français dans une église chrétienne.
Quand tu étais en Inde?
Quand j'étais en Inde, je suis rentré dans une église toute blanche, avec des pales au plafond qui tournaient. C'était rempli d'Indiens, tout noirs, habillés de blanc, qui chantaient « Minuit chrétien, à tue-tête, peuple à genoux, attente à délivrance ».
En français?
En français. Pondichéry, c'est une ville extrêmement française.
Ah bon?
C'est vraiment un français.
Et toi, Claire?
Je rêve, j'ai rêvé de l'Inde dans mes rêves. Pendant au moins 15 ans, j'ai continué d'y aller en rêve au moins une fois par mois, où je visitais dans les temples, où j'étais plusieurs endroits que j'avais même pas vus, là. Mais je suis retournée très, très, très régulièrement.
Tu as peut-être eu des vies antérieures en Inde, ou peut-être des vies postérieures à venir en Inde.
Je sais pas pourquoi ce pays m'a vraiment marqué.
OK, ouais.
C'est ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de la musique, justement, et beaucoup d'autres expériences. Évidemment, Auroville est une expérience... très intéressant. C'est une expérience de l'unité humaine.
Communautaire.
C'est communautaire, c'est ça, et des gens de tous les pays là-bas qui essaient justement de créer une forme d'unité. Hein?
Alors, on va se quitter maintenant à cette belle rencontre qu'on a eue, encore très originale, à Ésotérisme expérimental, ici, grâce à Claire Garin et à Alain Niala, qu'on a découvert aussi musicien. Hein? Alors, on n'a pas fini de se voir. On va peut-être découvrir d'autres facettes de notre Alain Niala. Ah ben merci beaucoup, Claire, et on te retrouve en spectacle. On a vu que tu avais un site internet et tout ça. Et on va quitter, tu nous proposes de nous enchanter.
Oui, une expérience bien spéciale, qui est justement l'union de l'Orient et de l'Occident. Avec mon petit Shruti Box ici.
Oui.
Je vais vous faire une chanson traditionnelle du temps des fêtes, avec... Puis vous voulez chanter, là, allez-y, hein?
Bonne semaine, tout le monde. On va chanter avec Claire.
V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Derrière chez nous y'a un étang,
derrière chez nous y'a un étang.
Trois beaux canards s'en vont baignant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Mm-hmm.